France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Hi, darling. I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art. C'est-à-dire l'artificiel qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les Minines, encore ? Non, non, par pitié, ça suffit avec les Minines. On a tout dit sur elle. Tout est rien ? D'accord, mais quand même, maintenant ça commence à bien faire. Tel est le début, célèbre, du dernier chapitre de « On n'y voit rien » de Daniel Arras, intitulé « L'œil du maître ». Or, on le sait, la meilleure manière de relancer la curiosité pour quelque chose, c'est de dire qu'on veut en finir avec elle. Car dans ce texte, bien entendu qu'il est encore question du tableau monumental que Diego Velázquez peignait en 1656 pour Philippe IV, roi d'Espagne. « Velasquius pingebat », signe-t-il, « à l'imparfait ». Car ce qui rend l'œuvre parfaite, ce qui l'achève, proprement dit, c'est la mise en puissance de ses interprétations. Et dans ce cas, on est servi. Avec les Minines, comment ne pas contempler, en même temps que l'œuvre, le tableau des lectures qu'il a suscité? À quoi ça sert tout ça? Mais ça tombe bien, c'est très exactement la question que pose Velázquez dans ce tableau. Qu'est-ce que servir en peinture? Servir le roi, sans doute, mais grâce à l'artifice du peintre, le roi, c'est moi. Moi qui le regarde. On n'y voit rien, sous-titre description. Mais quelque chose me dit que je vais avoir du mal à faire respecter la règle de cette émission aujourd'hui. La description prime l'interprétation. Il faut dire que Les Ménines de Velázquez est vraiment un tableau pour philosophes, depuis que Michel Foucault a posé son regard sur lui. Alors, on en parle avec Cécile Vincent Cassis et Jérémy Curing, très vite rejoint par notre sociétaire du jour, Mathieu Pot-Bonneville.
1656, Les Ménines. Les spécialistes se battent à coups de lignes de fuite et de perspective. Mais les vrais mystères du tableau sont ceux de mes sentiments. Mon regard, le vôtre probablement, converge d'abord vers l'infante, vers son visage, où je lis une sorte de tristesse amusée. Peut-être parce que je suis aujourd'hui, des siècles plus tard, un témoin savant, fatigué de tant de versions, explications et théories. Je regarde l'infante et je partage ses malheurs, les disparitions.
Mais non, on n'est pas fatigué de tant d'interprétations. Nous venons d'entendre un extrait de Diego Velázquez où le réalisme sauvage de Karim Aynouz était sur Arte en 2014 avec, vous l'avez reconnu, la voix d'Arthur H. Bonjour Cécile Vincent Cassis.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire de l'art hispanique à Cergy Paris Université. Vous êtes spécialiste du siècle d'or, mais que vous regardez depuis le contemporain. Ainsi, des anges, des saints, des vierges, des martyrs, dont vous êtes spécialiste. Velázquez, voir les anges, est un livre que vous avez publié en 2020 à propos de la tentation de saint Thomas d'Aquin, une toile de 1632, et il est largement question des Ménines dans le livre publié l'année suivante chez Atlant, Velázquez, histoire et fiction. Et puis, le livre que vous préparez actuellement sur Zurbaran, je crois, affirme votre méthode, affronter le regard des rois, des saints, des suivantes qui nous regardent dans les tableaux, et ce, planter, se placer littéralement devant eux. C'est ça, au fond, que nous assignent les Ménines de Velázquez.
C'est exactement ça. Quand on est devant les Ménines, on est devant l'infante et devant une pièce dans laquelle on a l'impression de pouvoir entrer.
Oui, Et on va y rentrer ensemble. Bonjour Jérémy Koering.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire de l'art à l'université de Fribourg, spécialiste de la représentation du pouvoir princier à l'époque moderne. Et vous aussi, vous campez devant les images au point de consacrer actuellement un programme de recherche aux façades peintes des villes de la Renaissance. Mais parfois c'est plus fort que vous, vous les mangez aussi ces images. Je pense à votre très beau livre paru chez Actes Sud en 2021, Les ichéonophages. Et cet appétit est tout théorique. Évidemment, vous vous attaquez à un gros morceau, hein, là aujourd'hui, avec ce formidable livre qui vient de paraître et autour duquel, bien entendu, on va parler, Enquête sur les Ménines, Velázquez et le regard du roi, toujours chez Actes Sud, et toujours le regard du roi. C'est votre thème, au fond.
Oui, toujours un regard qui dialogue avec le peintre et qui tente de mettre en évidence la question de la représentation. On y reviendra, je crois, c'est souvent aujourd'hui avec la figure de Foucault.
Mais... Et puis, justement, Mathieu Pot-Bonneville, bonjour.
Bonjour.
Quand je disais que le sociétaire allait nous rejoindre rapidement, là, vous ne pouviez pas attendre plus longtemps. Vous avez entendu Foucault, dont vous êtes spécialiste. Et évidemment que lorsque on parle des Ménines, on parle du regard que Michel Foucault a porté sur ce tableau en 1966.
Oui, mais c'est intéressant votre manière de me présenter, Patrick, parce que l'une des questions que pose l'interprétation de Foucault, c'est cette espèce de surgissement un peu avant l'heure.
Oui.
La question de savoir si le roi arrive un peu avant qu'on l'attende dans le tableau et dans l'économie du discours et de la connaissance qui prescrivait son arrivée.
Le roi arrive quand il veut, mais vous, vous êtes arrivé plus tôt que prévu. Et c'est ça qui est bien. Alors, Cécile Vincent Cassis, on ne va pas tout décrire, c'est impossible, mais au moins, puisque vous nous dites qu'on doit se placer là devant le tableau et qu'on peut y rentrer, tant il est grand, en fait, qu'est-ce qu'on voit d'abord ?
Alors d'abord, on voit des personnages à taille humaine, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont vraiment nos alter ego qui sont en train de nous regarder et de nous inviter à entrer. Donc la petite fille de 4 ans et demi qui est au centre, cette petite blonde qui fixe le regard sur nous, c'est l'infante Marguerite, la fille de Philippe IV, et elle est accompagnée des Ménines, d'où le nom du tableau. À droite et à gauche, deux personnages qui sont en train de la servir. Et tout à droite du tableau, deux nains, une naine qui s'appelait Malibarbola et qui était au service de sa mère. Et un petit nain qui était également au service de sa mère, qui est là, surpris, en train de secouer un chien, de poser son pied sur le chien au premier plan, tout premier plan. Et derrière ces personnages du premier plan, léger retrait à gauche, Velázquez, qui s'est autoportraituré derrière un chevalet immense, qui a grosso modo la même taille que, oui, que le tableau lui-même. Et à droite, derrière les nains et l'une des Ménines, deux personnages qui sont un peu dans l'obscurité, une duègne, on dirait en français, et un personnage masculin qui n'a pas été très bien identifié, qui sont en fait des personnages qui sont au service de la reine, sans doute. Et puis tout au fond, une porte ouverte qui s'ouvre sur un point lumineux et un personnage qui, tout en tenant un rideau, en soulevant un rideau, est en train de nous regarder aussi depuis le fond. Et on a identifié ce personnage avec l'aposentador de la reine, qui avait en fait le même rôle, la même charge que Velázquez. Et puis, ce que je n'ai pas dit, c'est que au milieu, entre la Ménine de gauche et l'infante, un miroir.
Oui.
Et c'est dans ce miroir, deux personnages.
Alors celui-là, évidemment, on va le retrouver. Jérémy Koering, j'ai dit 1656, mais cette date, on l'a déduit. Parce qu'en réalité, si on veut vraiment faire l'historien, la date d'apparition documentaire de ce tableau, c'est 1666. Donc Velázquez est déjà mort au moment où il apparaît dans un inventaire.
Tout à fait. Premier inventaire qui mentionne le tableau en le désignant donc comme une œuvre dans laquelle apparaît précisément le peintre. La date est tardive finalement, puisqu'on est là 6 ans après la mort de Velázquez, 10 ans après le début présumé du travail de l'artiste sur cette toile, qui correspond à l'âge que Marguerite justement est censée avoir dans la représentation. Donc par un calcul très simple, on imagine que le tableau a été initié en 1656, mais peut-être pouvons-nous évoquer aussi un tableau qui se cache sous celui, oui, que l'on voit. Et les radiographies ont révélé donc un état antérieur qui indique que le processus de production a été assez long. très probablement, Velázquez y a porté la main en 1657 et même peut-être au-delà.
Parce que la génétique de l'œuvre, telle qu'elle est effectivement révélée par la radiographie, elle nous donne à voir la généalogie royale, parce que s'il a dû reprendre son tableau, c'est parce que il y avait eu un heureux événement, c'est ça ?
C'est ce qui a été avancé par une historienne de l'art qui s'appelle Manuela Mena Marquez, qui considère que les modifications assez considérables, finalement, de la version 1 au tableau que l'on connaît au Prado aujourd'hui, est probablement consécutif à la naissance d'un héritier qui naît le 20 novembre 1657, Felipe Prosper, et qui va rebattre un petit peu les cartes, puisque le premier tableau était vraisemblablement une représentation qui mettait en scène une possible future héritière.
Et là, elle n'est plus l'héritière.
Et là, elle ne l'est plus.
Oui, ouais. Mais elle est quand même toujours au centre de la représentation.
Elle est toujours au centre de la représentation, mais elle n'aurait jamais dû y être, puisqu'elle avait une grande sœur qui s'appelle Marie-Thérèse, qui a été mariée en 1660 à Louis XIV. Et elle n'était pas héritière de la couronne non plus. Donc en fait, sans doute que dans l'interprétation de ce tableau, il y a cette décision d'en faire l'héritière ici à Fleur.
Alors, on est bien effectivement sur un tableau de cour devant le roi qui lui-même a commandé ce tableau pour son usage personnel. C'est pas un usage cérémoniel. On sait qu'il sera exposé dans son bureau privé. Et c'est bien cette question au fond de l'affrontement des regards que pose par exemple un artiste photographe comme Philippe de Jonquière au Book Club de France Culture. C'était en janvier 2015.
Tout d'un coup, on comprend que ce que l'on pensait être un pas de côté immense, c'est-à-dire Velázquez se représentant lui-même, peignant le roi, et le roi n'est visible qu'au travers d'un reflet qui est au fond du tableau. Donc, ce qui est déjà assez puissamment courageux, ce qui est déjà une affirmation de l'artiste qui, en quelque sorte, est plus important que le roi. Enfin, tout ça, c'est très très fort d'émancipation. Tout ça, je le sais, je l'ai étudié. D'une certaine manière, on peut penser que les artistes naissent avec ce tableau-là, en quelque sorte, que c'est l'acte de naissance des artistes, qui ne sont plus des peintres qui représentent ce qu'on leur demande de représenter. Donc c'est une émancipation folle, et il y a une chose dont on ne peut pas douter que Velázquez l'avait pas forcément imaginé, mais il l'avait peut-être rêvé, c'est qu'en fait la terre entière défile devant ce tableau en étant à la place du roi. En fait, on est debout devant le tableau et on est à la place du roi. On est émancipé de la royauté. On est là où devrait être le roi et on voit ce que le roi voyait quand il a posé pour ce tableau. C'est une émotion très forte que je n'avais pas anticipée, que je n'avais pas pensé à ça. Je pensais connaître ce tableau au travers de ses reproductions, je veux dire tout ce que j'avais pu lire sur ce tableau. Mais je n'avais pas pensé à ce que c'était que d'être debout devant ce tableau, avec d'autres personnes. Mon désespoir, c'est qu'on n'en fasse pas grand-chose.
Si, on va essayer d'en faire quelque chose grâce à votre livre « Enquête sur les Ménines », Jérémy Koering, qui se lit évidemment comme un thriller théorique, parce qu'on va d'hypothèse en hypothèse, mais qui peut aussi se lire comme une réponse à cette entêtante stupéfaction qu'on a entendue. Voilà, on est à la place du roi, il y a quelque chose d'éminemment démocratique là-dedans, où se joue la représentation moderne, et d'une certaine manière, il y a un ton un peu personnel, hein, votre livre, vous en êtes jamais revenu.
J'en suis jamais. Oui, d'une certaine façon, effectivement. C'est un tableau qui me hante, peut-être encore aujourd'hui, même si le livre pourrait être considéré comme une manière de s'en débarrasser, mais voilà, cette image revient. Je ne sais pas si le tableau, même aujourd'hui au Prado, nous place dans une position démocratique à son endroit, parce que finalement, quantité d'éléments présents d'ailleurs dans la salle du Prado même, c'est-à-dire d'autres représentations, à commencer par la représentation du roi, des portraits peints par Velázquez, nous rappellent sans cesse cette présence royale. Elle incite surtout à douter de notre position de spectateur, à nous interroger sur ce qu'il est possible de déduire, oui, de ce regard à partir de notre position contemporaine.
Vous l'avez lu comme ça, Mathieu Pot-Bonneville, ce livre de Jérémy Koering, Enquête sur les Ménines, comme un thriller théorique?
Oui, c'est véritablement cette dimension de l'enquête. J'ai pensé aussi aux enquêtes, l'enquête sur l'entendement humain de Hume, à cette manière dont l'empirisme travaille sur la sensibilité pour essayer de construire des associations. Donc il y a une dimension, en effet, d'investigation théorique qui tient l'équilibre, je trouve, de manière assez passionnante entre les interprétations antérieures qui ont été proposées du tableau et puis l'expérience du tableau lui-même dans un aller-retour qui donne toute leur place et toute leur légitimité aux interprétations jusqu'au moment de dire que, par exemple, les erreurs ou les approximations ne sont peut-être pas si graves. Il y a cette manière de dire que, certes, la perspective n'est pas exactement là où on attend, mais c'est peut-être pas le problème. C'est un grand exercice de perspective que les Ménines, mais comme vous le dites très bien, la perspective, c'est au fond l'écart entre la géométrie et l'imaginaire.
Oui.
Ce jeu entre la construction géométrique du tableau et l'effet ou les légères aberrations dans sa lecture, ce jeu-là définit au fond la construction perspective de la toile. Et ça, c'est tout à fait passionnant, la façon dont vous le montrez.
Et pour nous, la mise en perspective historique d'un tel tableau, au-delà de son unicité, vous montrez bien, Jérémy Koering, que la muséographie a hésité entre l'isoler et le regrouper avec de la peinture du siècle d'or ou avec des œuvres de Velázquez. Justement, qui est Velázquez en, disons, 1656, Cécile Vincent Cassis? Il est à la cour depuis 1623, je crois. Il est portraitiste du roi, mais enfin, aucun genre, au fond, ne lui est étranger. Et ce portrait est bien plus qu'un portrait.
Exactement, ce portrait, il fait de ce portrait une fiction aussi. Dans cet intervalle entre la perspective et la non-perspective, il glisse en fait des possibilités de fiction et c'est ce qui fait qu'on a proposé l'expression de portrait historié. À ce moment-là, donc Velázquez, il revient de son deuxième séjour en Italie. C'est un séjour où il a été consacré comme un peintre de portrait. Il a fait le portrait du pape Innocent X après avoir fait le portrait de son propre esclave avant de la franchir. En fait, dans sa vie, dans sa carrière, il a été d'abord un portraitiste. Le portraitiste, enfin, il vient de Séville et en 1623, il a été désigné, nommé portraitiste du roi Philippe IV. Il a dû s'adonner à ce genre pictural. Il s'en est petit à petit lui-même affranchi aussi. Il a réussi à faire des peintures d'histoire. Il a fait un premier séjour en Italie à la fin des années 1620. Et puis, il a continué, bien sûr, à se consacrer au portrait, puisque c'était sa charge. Et ici, en fait, il propose autre chose qu'un portrait pur, je dirais.
Oui, et donc toute la question maintenant, qui sera un autre ensemble, c'est d'essayer d'articuler l'analyse historique et l'analyse, disons, philosophique. Et là, on va retrouver Michel Foucault. Mais peut-être au filtre du regard de Daniel Arras, à l'été 2003, grand moment de radio, sont ses histoires de peinture. Il récapitule dans l'urgence tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a vu, et notamment ce qu'il a vu de Velázquez depuis qu'il avait lu Foucault. Écoutez-le.
L'hypothèse de Foucault, sa lecture du tableau, se fonde sur une hypothèse. Il le dit lui-même. Il dit, donc je cite de mémoire, « Il faut feindre que nous ne savons pas ce qui se reflète dans ce miroir. » Nous ne savons pas. Or, historiquement, c'est absolument impossible, puisque ce tableau a été peint à la demande du roi d'Espagne et qui était destiné à son bureau privé. Alors, je ne veux pas imaginer le roi d'Espagne faisant semblant de ne pas savoir que c'est lui qui se reflète dans le miroir qui est au fond. En fait, et je trouve ça passionnant, parce que ce qu'a fait Foucault, et c'est un texte magnifique, ce qu'il a fait, c'est ce que j'appelle démocratiser les Ménines. Il a regardé les Ménines telles qu'elles sont accrochées dans un musée. Effectivement, enfin, je peux feindre que c'est moi qui m'en fait là-bas. Je peux imaginer que c'est moi, spectateur. Et non, puisque justement, c'était le roi dans son bureau d'été, il était seul spectateur. D'ailleurs, le roi était peint au fond du tableau dans un miroir, mais était aussi le destinataire du tableau, en face du tableau. Bon, et donc, l'idée que je puisse feindre de ne pas savoir ce qui se représente, que donc, etc., c'est parce que c'est là que s'accroche l'idée du sujet, du je pense, qui accompagne toute représentation, c'est faux historiquement. Et pourtant, cet anachronisme de Ménine démocratique, de Ménine muséale, eh bien, cet anachronisme a été extrêmement producteur. Il était producteur non seulement du texte de Foucault, ce qui est déjà une très belle chose, mais il était producteur d'un débat théorique considérable et interminable maintenant sur les Ménines, parce que Foucault a lancé une machine théorique qui fait que toute personne ayant envie de faire la théorie de la peinture, à un moment ou à un autre, va être obligée de s'intéresser aux Ménines. Il a lancé aussi tout un débat pour savoir comment était conçue la perspective des Ménines, où était placé le peintre, où était placé le spectateur, etc. Il y a une masse de textes là-dessus considérable. Et surtout, pour un historien, le texte de Foucault a un mérite considérable, c'est qu'il a obligé les historiens de l'art traditionnels à faire attention aux Ménines. C'est-à-dire, pour pouvoir se débarrasser de l'explication proposée, magnifique, mais erronée historiquement, de Michel Foucault, eh bien, il y a eu un énorme travail des historiens dans les archives, hein, pour comprendre quel était ce tableau.
France Culture. Allons y voir. Patrick Boucheron.
Magnifique mais erroné.
Magnifique mais erroné, c'est un jugement assez féroce en réalité, que celui de Daniel Arras. De fait, l'analyse de Foucault comprend un certain nombre de problèmes, même si ce que Arras reproche à Foucault d'avoir démocratisé en feignant que le roi ne savait pas que c'était lui, c'est pas tout à fait ce que fait Foucault dans le texte. Foucault anonymise d'une certaine façon les représentations, de manière, parce que dans la totalité du livre où ce texte va s'insérer, la question n'est pas de savoir qui est qui, la question n'est pas celle des noms propres, mais celle des places. Oui. Et ce qui intéresse Foucault, c'est la façon dont ce tableau met en jeu toute une série de places et fait jouer les unes vis-à-vis des autres des places relativement abstraites vis-à-vis des personnages historiques qu'elles incarnent.
Mais qu'est-ce que fait ce morceau de bravoure, magnifique, hein, quand même, il faut le dire, flamboyant du point de vue de l'écriture, au début des mots et des choses?
Alors d'abord, il y a atterri in extremis. L'histoire de ce texte est assez intéressante, si l'on en croit Daniel Devers. Le livre sur les signes, ce que Foucault appelle dans les années 60 son livre sur les signes, et qu'il met plusieurs années à écrire, ce qui deviendra les mots et les choses, il en a l'idée au Prado, devant les Ménines, alors même qu'il est sur le trajet d'une série de conférences qui le conduisent à la fois à Madrid et à Lisbonne, où il est parti commenter la tentation de Saint-Antoine de Boche. Donc sur le fond tout de même, chez lui, d'une importance très particulière donnée à la peinture dans l'exercice philosophique. Donc ce tableau a pour lui une importance cardinale, mais le texte qu'il va en tirer, et qu'il publie un an avant les mots et les choses au Mercure de France, ce texte, il ne sait pas très bien comment l'insérer dans l'architecture du livre auquel il a donné naissance. Il essaye plusieurs choses, les manuscrits montrent que il essaye de l'intégrer à la partie spécifiquement consacrée à la période classique, avant d'en faire cette espèce d'introduction après l'introduction, qui participe de sa célébrité, hein, parce oui. que on a parfois dit que si la Madeleine de Proust est si connue, c'est parce que c'est généralement parce qu'elle est dans les 20 premières pages de la Recherche. De la même manière, Les mots et les choses, qui est un énorme succès de librairie en 1966, s'ouvre par cette description qui est parfois ce que les lecteurs, la seule chose que les lecteurs ont lu, parce qu'après ça devient beaucoup plus délicat et beaucoup plus technique.
Et ce qu'il décrit, c'est un tableau, mais je dirais un tableau au sens clinique aussi, un tableau au sens de la nomenclature, c'est-à-dire que c'est d'une certaine manière le tableau de la représentation classique où les signes sont étalés.
Absolument, c'est le tableau du tableau. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de tableaux qui sont au fond de la pièce où se passent les Ménines. Et ça intéresse beaucoup Foucault. Pourquoi ? Parce que dès avant les mots et les choses, dès le début des années 60, ce qu'il appelle l'âge classique, c'est ce moment du savoir où le savoir se déploie en quelque sorte à plat, superficiellement, dans un étalement des signes et des espèces qui fait que la matrice du savoir est vraiment un tableau au sens de la base de données, au sens du tableau Excel,
le tableau,
si vous voulez. Voilà, exactement. C'est-à-dire un tableau symptomatologique et puis un tableau taxinomique. Il le dit bien dans Naissance de la clinique, lorsqu'il parle du savoir médical classique, voilà, c'est un tableau. Donc, évidemment, trouver le tableau dans un tableau, c'est tout à fait précieux. Le paradoxe étant d'ailleurs que ce tableau, cette toile, qui est si connue pour sa construction perspective, sur laquelle Foucault va s'étendre assez longuement, l'intéresse au titre de sa superficialité. C'est-à-dire que ce qui intéresse Foucault, c'est qu'en un sens, évidemment, le tableau est creusé par des lignes de fuite, par des lignes de construction qui lui permettent d'interroger la place du spectateur, la place du roi, etc. Mais c'est aussi un tableau où, d'une certaine façon, tout le visible se donne ou s'étale, c'est la description qu'il en fait, dans une sorte de spirale autour du regard central, de telle sorte que rien n'est caché, rien n'est scellé. C'est la profondeur d'un savoir ou d'un ordre des choses, c'est ce qui intéresse Foucault à l'époque, d'un ordre des choses qui n'a pas besoin de la profondeur pour être compréhensible, au contraire de ce que sera la modernité.
Alors évidemment, Jeremy Göring, votre livre a à faire avec cette hypothèse de Foucault, en particulier du point de vue de la perspective et le fait que, voilà, on peut la dire erroné, c'est un peu rapide, comme le disait Arras, pour vous, ne l'invalide pas.
Elle ne l'invalide pas, tout simplement parce que ce que met en évidence Foucault, c'est véritablement la manière dont le tableau s'adresse au roi, littéralement, et pose la question du tableau comme une possible émanation du regard du roi, de sa puissance.
Oui.
Et quand on observe la façon dont Velázquez a effectivement posé sa perspective, c'est-à-dire mis en ordre l'espace de la représentation, on se rend compte, et je ne suis vraiment pas le seul à l'avoir dit, que tout ce qui fait signe justement à l'œil, ce qui permet de reconstituer cette perspective, est beaucoup plus lâche que on ne l'imagine ou qu'on ne le pense généralement. Et ce flottement entre la construction perspective et la perception, c'est-à-dire la perception que l'on a du tableau, permet justement de faire coïncider finalement le point de fuite et la position du roi dans le miroir de manière beaucoup plus, disons, immédiate que la construction purement géométrique pourrait le laisser entendre.
Cécile Vincent Cassis, évidemment, l'histoire de l'art ne peut pas se contenter de corriger la théorie en voyant des choses plus ponctuellement situées que le philosophe ne peut le faire. Vous êtes, comme Jeremy Göring, attentive à confier à l'écriture une partie de la charge de la preuve de votre histoire de l'art. Arras, Foucault, évidemment, c'est important pour vous aussi.
Bien sûr, toutes les interprétations des Ménines sont importantes et celles de Jérémy aussi. Et je pense que l'intérêt, la stimulation de ce livre, c'est de conduire à d'autres interprétations, à ne pas se fermer justement, à proposer un regard à partir de tous les regards qui ont pu être porté et écrit sur les Ménines et à inviter à ce que chacun et chacune enrichisse avec son propre regard, puisque c'est un tableau de regard.
Tout à mon empressement de vouloir écouter Juan Hidalgo nous mettre dans l'ambiance de la cour de Philippe IV, je vous ai coupé la parole, je crois, Mathieu Potbelluil. Vous vouliez parler de l'écriture, justement.
Oui, je voulais dire qu'au titre des choses que font les Ménines et au titre des choses que Foucault décèle, c'est que les Ménines interrogent la relation entre le tableau et le discours qu'on peut tenir sur lui. C'est quelque chose que Foucault repère très bien. Il écrit dans sa description « On a beau dire ce que l'on voit ne se loge jamais dans ce que l'on dit ». Et c'est assez intéressant. L'une des choses que va faire la publication des mots et les choses et de cette description des Ménides, c'est susciter une réaction enthousiaste de quelqu'un qui s'appelle Magritte et qui va écrire à Foucault. Magritte écrit à l'époque à un certain nombre de philosophes et il écrit à Foucault combien il est bouleversé par sa lecture. Et c'est le début d'une correspondance assez intéressante entre Foucault et Magritte qui arrivera au texte de Foucault intitulé « Ceci n'est pas une pipe » où toute la question est celle, évidemment, du rapport entre l'image, la parole sur l'image, etc. Donc, les Ménides sont aussi, vous disiez Patrick que c'est un tableau pour philosophes, mais c'est aussi une matrice à interroger, déplacer constamment le rapport de la représentation au discours tenu sur elle, au discours critique ou théorique qui voudrait en dire enfin la vérité. D'une certaine manière, l'ironie magrittienne ou l'humour magrittien est peut-être déjà installé dans la toile de Velázquez.
Alors ceci n'est pas un tableau, c'est bien plus qu'un tableau, surtout à vous lire. Jérémy Koering, les écritures chez Velázquez ne sont pas légion, c'est pas un tableau qui est très documenté, on l'a compris, il est signé, mais vous l'environnez quand même de toute une série de textes qui lui sont contemporains, les textes emblématiques, les textes aussi Le Courtisan, Graciane, parce que pour vous, une des questions qui est au cœur finalement de l'interrogation picturale de Velázquez, c'est la question du service.
C'est un tableau qui est littéralement traversé par cette problématique, comme une basse continue. L'idée que ici, toutes les personnes rassemblées sont au service de la royauté. Alors d'abord, évidemment, de Marguerite, on l'a dit, les Ménines, à commencer par les Ménines, mais Marie Barbola et le jeune Pertusato sont aussi au service des rois. Ils sont voués à leur service par leur vie. Et ici, Velázquez ne fait pas exception. Il se présente comme serviteur du roi en tant que peintre. Tout d'abord, il est, on le sait, depuis 1623 au service du roi en tant que peintre, mais aussi depuis 1652 en tant que grand ordonnateur des décors, de l'ameublement, de l'entretien du palais en tant qu'aposentador. Et en se montrant en train de travailler, en train de peindre, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, il est là avec une palette en main, un pinceau, face à un tableau dont on ne voit que le revers et la chose est fondamentale, donc il est au travail, il offre de lui-même une image qui est celle d'un travailleur. Beaucoup d'interprétations du tableau proposées par les historiens de l'art, notamment à la suite de Jonathan Brown, ont mis l'accent sur la dimension intellectuelle de cette représentation. Évidemment qu'il y a beaucoup de réflexions, il y a du concetto, comme le diraient les Italiens, il y a véritablement de l'ingéniosité dans la représentation. Mais en décidant de ne pas mettre de côté cette part manuel et artisanal, il affirme très clairement l'idée que la peinture repose d'abord sur cette pratique-là. Et là, j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit à propos de Foucault. Je crois que d'une certaine façon, Foucault, en 66, est aussi travaillé par le souvenir de Merleau-Ponty et la dimension sensible. C'est un texte d'une beauté inouïe, en grande partie aussi pour cette capacité à faire surgir des sensations dans la description qu'il en donne. Et c'est un rappel essentiel à considérer le tableau d'abord comme quelque chose qui se lève par ce biais-là, par la dimension sensible, par la touche, par la matérialité de l'œuvre.
Mathieu Pottebondil.
Oui, c'est tout à fait juste. On ne comprend pas l'analyse que Foucault propose des Ménines si on ne la resitue pas dans la double filiation et dans la double opposition aussi, avec Merleau-Ponty d'une part, et avec Sartre, avec les analyses que Sartre propose du Tintoret en particulier, qui sont très importantes, le séquestré de Venise. Et avec lesquelles Foucault entretient un rapport foncièrement ambigu, parce que ce que Foucault essaie de faire, c'est de dire non, la peinture, ça n'est pas le recueil d'une expérience première, d'une perception que chacun, dans laquelle chacun pourrait se reconnaître. Ça n'est pas non plus l'expression d'une personnalité, comme le voulait Sartre. La peinture est une affaire de signes et de structures. Bon, d'accord. Mais dans cette manière d'accorder à la peinture une valeur cardinale, d'accorder une valeur presque prophétique, d'annoncer tout un âge du savoir, il y a quelque chose d'absolument hérité et de Merleau-Ponty et de Sartre. C'est quand même une façon de se fier à la peinture, et aussi d'ailleurs, on peut le dire, d'avoir confiance en soi quand on aborde la peinture, parce que la limite de l'analyse de Foucault, qui était la même que celle de Sartre, c'est de se dire que autant il faut être prudent et documentée quand on parle de sciences dures, ou, etc. Autant quand on est face à la peinture, on pourrait se dispenser d'une connaissance historiographique sérieuse, ce qui n'est pas sérieux.
Toucher, trancher, couper, c'est finalement en escrimeur que Velázquez se saisit de l'occasion qui se présente. Et d'ailleurs, n'en irait-il pas de l'art de peindre comme de l'escrime? Écrivez-vous, Jérémy Koering, au début du chapitre, l'art de la pointe, où vous remarquez que, justement, pointu, effilé, est le pinceau qui est tout blanc en sa pointe de Velázquez. Est-ce que, du point de vue de la peinture du siècle d'or que vous connaissez si bien, Cécile, est-ce que là, il y a quand même quelque chose, on le dit, une émancipation, une audace, une subversion peut-être par rapport à la commande, qui est vraiment sans précédent?
Je ne sais pas si on peut parler de subversion concernant Velázquez, qui justement ne quitte jamais son statut de serviteur du roi. Certainement, moi je n'irai pas jusqu'à parler de subversion. Il est certain que Velázquez a cherché toute sa vie, toute sa carrière, et surtout à travers sa peinture, à s'émanciper de ce qui pouvait assimiler la peinture à un art mécanique.
Oui.
Ça c'est très connu, et c'est presque, je dirais, un cliché maintenant de dire qu'il a voulu être anobli, et qu'il est effectivement sur son habit, l'habit de son autoportrait, on voit la croix de chevalier de Saint-Jacques, dont on ne sait si c'est lui qui l'a peinte ou pas, et il y a des légendes sur le fait que ça pourrait être le roi qui l'aurait lui-même peint, ce dont on n'a aucune idée en fait, mais en tout cas, c'est vrai que ce portrait collectif résume peut-être le combat des peintres du siècle d'or espagnol pour la reconnaissance de la noblesse de la peinture.
Alors, pas subversion, mais au moins émancipation, c'est pas pour rien quand même qu'on entendait Jean-Paul Belmondo dans Pierrot le Fou, Jean-Luc Godard, 1965. Belmondo lire du Elifor.
Velázquez, après 50 ans, ne peignait plus jamais une chose définie. Il errait autour des objets avec l'air et le crépuscule. Il surprenait dans l'ombre et la transparence des fonds, les palpitations colorées dont il faisait le cendre invisible de sa symphonie silencieuse. Le monde où il vivait était triste. Un roi dégénéré, des enfants malades, des idiots, des nains, des infirmes. Quelques pitres monstrueux vêtus en prince, qui avaient pour fonction de rire d'eux-mêmes, et d'en faire rire des êtres hors la loi vivante, étreints par l'étiquette, le complot, le mensonge, liés par la confession et le remords. Aux portes, l'auto-da-fé, le silence. Écoute ça, petite fille. Un esprit nostalgique flotte, mais on ne voit ni la laideur ni la tristesse, dit le sens funèbre et cruel de cette enfance écrasée. Velázquez est le peintre des soirs, de l'étendue et du silence. Même quand il peint en plein jour, même quand il peint dans une pièce close, même quand la guerre ou la chasse hurlent autour de lui. Comme il ne sortait guère aux heures de la journée, où l'air est brûlant, où le soleil est un tout, les peintres espagnols communier avec les soirées. C'est beau ça, hein, petite fille?
Tout est fou de leur lire des choses comme ça.
On est en 1965, donc on voit bien, donc on est dans le même contexte que Foucault, les mots et les choses, on voit bien, Jérémy Koering, que même si c'est paradoxal, vous l'avez rappelé, Cécile Vincent Cassis, dans ce peintre de cour, qui fait si bien service au roi avec sa peinture, on cherche quand même quelque chose qui a à faire avec l'émancipation.
Il y a vraiment quelque chose d'étonnant dans ce qui a été dit tout à l'heure à propos de Foucault et Magritte, et la réponse que fait Magritte à Foucault, pris par la lecture de ce texte et donc la production de cette œuvre qui ramène la réflexion sur le faire, sur ce qui est vraiment là, c'est-à-dire le tableau, avant d'avoir une relation transitive à la représentation. Et on pourrait dire que, d'une certaine façon, Velázquez est aussi là comme un artiste qui trouve une réponse en peinture à une injonction de Baldassare Gracián qui serait allez-y, faites, oui. Faites des œuvres, vous, poète et peintre, qui touchent au plus juste avec cette ingéniosité qui ressemble à une épée, justement, une art de la pointe. Et pour en revenir au pinceau, c'est bien de ça dont il s'agit, c'est-à-dire qu'il trouve les moyens, en peinture. De répondre à cette injonction.
Et alors, en peinture, évidemment, vous en avez fait presque l'entièreté de la description, Cécile Vincent-Cassim, mais tout à l'heure, vous vous étiez arrêté au miroir. Et je crois que maintenant, pour avoir, sinon la clé de l'énigme, du moins en tout cas une ligne de fuite ou de perspective, il faut quand même essayer de comprendre ce qu'on voit dans ce miroir.
Oui. Alors, dans ce miroir, nous avons deux personnages. C'est surtout ça qui m'intéresse peut-être, qui serait nouveau à dire. Donc c'est le miroir qui reflète un portrait. Le portrait de deux personnages sous un rideau qu'on aperçoit à droite, dans le coin supérieur droit. À droite, donc, le roi, et à gauche, la reine, donc les deux parents de l'infante qui est au premier plan. Et puis au-dessus de ce portrait, dans un miroir, sur le même mur, deux tableaux qui sont dans l'ombre et qu'il faut déchiffrer.
Alors tout a été tenté, hein, Jérémy Koering, pour effectivement tenter de, voilà, essayer de décrypter qu'est-ce qu'il y a dans le miroir. Ça peut être le présent, ça peut être le passé, ça peut être le futur.
Mm-hmm. Là, il y a véritablement bataille entre les historiens de l'art pour arriver à comprendre ce qui se reflète. On a notamment aussi considéré qu'il y avait là non pas le reflet de deux personnages présents, disons, dans notre espace, enfin équivalent à un autre espace face au tableau, mais plutôt une portion du tableau qui est en train d'être peint par Velázquez et dont on ne voit pas la face. Et une grande part de l'énigme, évidemment, c'est cette relation entre le miroir et le tableau,
auquel on n'a pas accès. Hein. Dont on peut imaginer qu'il est aussi grand que les meninges elles-mêmes, c'est-à-dire 3,20 m.
Les reconstitutions qui ont été faites exactement indiquent qu'il y aurait là une sorte de châssis analogue à celui des meninges, ce qui donne la possibilité, c'est ce qui a été proposé notamment par Julián Gallego, et c'est ce vers quoi je tends aussi, l'idée que, en fait, Velázquez est en train de peindre le tableau qu'on est en train d'observer, autrement dit les meninges. Et ce qu'il peint, pour le dire vite, c'est tout simplement le regard du roi. Il donne corps à la perception, à la vision du roi, qui saisit en quelque sorte quelque chose comme un tableau devant lui, et que Velázquez lui-même perçoit comme en puissance.
Et advient la représentation par effectivement la pointe.
Par la pointe de l'esprit et du pinceau. Et c'est vraiment cette alliance entre un esprit extrêmement vif, qui saisit l'occasion, qui perçoit dans le regard du roi quelque chose qui pourrait être un tableau, et qui met en œuvre la chose, mais ce qui va être non seulement suffisamment vif pour comprendre qu'il y a là quelque chose à venir, mais aussi il faut être capable de le mettre en œuvre. Et là, toute la maestria de Velázquez dans la promenade de son pinceau à la surface de la toile, on l'a d'ailleurs sous les yeux. Il suffit de se rapprocher de la toile pour voir à quel point il y a un monde qui se crée sous nos yeux.
Évidemment que Michel Foucault s'intéressait, Mathieu Pot-Bonneville, à ce qui advenait là, dans ce miroir, ce qui surgissait là, au pas de cette porte, le roi, l'homme, pour les sciences humaines. Et puis il y a eu d'autres miroirs aussi, celui de Manet, par exemple.
Je pense que on pourrait dériver de l'expression miroir aux alouettes. Je pense qu'il y a des miroirs aux alouettes, il doit y avoir des miroirs pour philosophes aussi. C'est-à-dire que si vous mettez un tableau représentant un tableau et un miroir avec la question de savoir ce qui reflète quoi, évidemment, vous piégez la mouche dans la bouteille à mouche, comme disait Wittgenstein, et vous êtes parti pour assez longtemps. En effet, le miroir est le cœur de l'interprétation de Foucault, qui en tire deux conclusions antagoniques, d'une certaine façon. D'une part, le miroir, c'est ce qu'il n'y a pas dans le tableau. C'est-à-dire qu'au fond, l'une des choses que dit Foucault, c'est que ce que le tableau ne montre pas, c'est le spectateur. Le spectateur voit tout, mais ce qu'il voit dans le miroir, c'est pas lui. C'est le roi, c'est d'autres personnages, etc. Ce qui est une manière de dire qu'au fond, jamais un régime de connaissance ne peut se voir lui-même, s'interpréter, se connaître intégralement lui-même. L'œil n'est pas dans le champ visuel. Donc, ce miroir marque une invisibilité. Et puis, la deuxième chose que Foucault en dit, c'est que ce miroir, il marque ce qui va arriver, ce qui viendra plus tard, dans le chapitre qui ouvre la section consacrée au savoir moderne, c'est-à-dire
à partir du 19e siècle, c'est la modernité des philosophes qui n'est pas exactement celle des historiens, c'est-à-dire cette manière dont l'homme des sciences humaines va entrer dans le champ de la représentation et dont il va falloir travailler sur le sujet qu'il regarde, au fond, dont le hors-champ va venir dans le champ. Alors ce qui est intéressant, si on continue sur nos affaires de miroirs, c'est un peu la dame de Shanghai, là, les miroirs se multiplient, c'est qu'effectivement, Foucault va mettre en regard ce miroir avec un autre, qui est celui du tableau de Manet intitulé « Le bal aux Folies Bergères », où Foucault va voir au contraire une sorte de surgissement de la modernité, une sorte d'opacité foncière de la toile, la destruction du régime perspective du Quattrocento, cette peinture, comme il le disait, méchante. Il disait que la peinture de Manet était méchante, parce que elle corrodait les coordonnées de la modernité, les coordonnées de la peinture classique, pardon. Il y a évidemment le miroir de Lacan. Quand les mots et les choses sortent, Lacan invite Foucault à son séminaire. On a vraiment l'impression d'assister à ce qu'on appelle dans le monde du clubbing un B2B. C'est-à-dire qu'ils sont là tous les deux à remixer Velázquez avec la question de savoir qui est meilleur en géométrie perspective que l'autre. L'histoire n'est pas convaincante. Bref, il y a des miroirs partout. Quand même une chose, Patrick, j'y étais frappé en écoutant Belmondo dire et redire « Écoute ça, petite fille », dans sa lecture d'Elifort. Je suis frappé, dans notre discussion, que dans ce tableau où tant de femmes sont présentes, l'informe, ben ses suivantes, la reine, il n'est question que du roi.
Justement, on va en parler. Hein, on vous dit toujours l'homme, le surgissement de l'homme, mais justement, c'est l'homme et la femme. On va en parler. Ben, vous avez été au courant, hein, sans doute, Rosalia vient de sortir un nouvel album et on peut écouter dedans la Perla.
Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. Es tan encantador, estrella de la sinrazón, un espejismo, medalla olímpica de oro, el más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. No sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, vas al psicólogo, también psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te hará
a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?
Nunca le prestes la, no lo devolverá, salva la perdida, es su especialidad, la lealtad y la fidelidad, es un idioma que nunca entenderá, su masterpiece, su colección de. Desaparecerá la decepción loca.
Alors on peut bien parier que l'homme s'effacerait comme à la limite de la mer, un visage de sable, c'est ainsi que s'achèvent les mots et les choses de Michel Foucault. Et en écoutant Jean-Paul Belmondo, Mathieu Pot-de-Bonneville a eu un éclair de lucidité. L'homme, ben oui, mais sauf que là, il y a l'homme et la femme. C'est très important. Il y a le roi et la reine, Cécile Vincent-Cassis.
Exactement. Et en fait, c'est ce que la génétique nous apporte. Quand on a fait des radiographies de l'œuvre, on a découvert un tableau sous-jacent. Et dans ce tableau sous-jacent, il n'y avait qu'un seul personnage dans le miroir. Et ajoutons que le miroir de ce portrait est celui d'un portrait imaginaire, puisqu'il n'y a jamais eu de portrait du roi et de la reine ensemble.
Portrait dynastique, ça n'existe pas à la cour d'Espagne. Ça existe dans d'autres cours.
Exactement, européennes. Exactement. Donc en fait, dans la deuxième version de ce tableau, le personnage de la reine a été ajouté. Et il faut dire que c'est très cohérent, puisque l'ensemble des serviteurs, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, étaient les serviteurs de la reine, de la maison, de ce qu'on appelle la maison de la reine. Les Ménines, la petite fille à ce moment-là, n'avait pas ses propres serviteurs. Ce sont tous des serviteurs qui sont au service de la reine. Donc, on peut effectivement accorder une importance très grande à la présence de cette jeune femme, oui, qui était la nièce de Philippe IV, dont la première épouse était morte en 1644 et qui avait donc décidé de se marier avec sa nièce qui était promise à son fils qui lui aussi était mort. Donc, cette jeune femme, assez rapidement, elle est arrivée en 1649 et elle a donné naissance à cette petite Marguerite, qui a été la tendre petite fille adorée de Philippe IV dans ses dernières années. Il y a des lettres très touchantes de Philippe IV qui a, semble-t-il, en fait, voulu avoir aussi ce tableau réservé dans son bureau d'été pour lui, en face de lui, et puis il voulait la contempler. C'est vraiment le portrait de cette héritière du nouveau couple qu'il avait formé avec cette jeune reine.
Et c'est d'abord elle qu'on voit, effectivement, l'infante, et puis ses suivantes. C'est comme ça que le chapitre de Michel Foucault est appelé, et pas les Ménines. D'ailleurs, ce tableau privé, enfin en tout cas dans l'espace privé du roi, Jérémy Koering, a eu plusieurs titres.
Il a été aussi appelé la famille, oui, au XVIIIe siècle, c'est ainsi qu'on le désignait. Et c'est effectivement une famille qui est représentée ici, enfin, la famille royale dans toute sa dimension autour de Marguerite. Et le tableau fait écho à un tableau qui est antérieur à celui-ci, la leçon d'équitation de Balthasar Carlos que l'on a à l'esprit, où l'on voit le jeune prince, le futur héritier à l'époque, nous sommes là dans les années 1640, chevauchant un cheval en levade et démontrant par là sa capacité à mener l'animal peut-être dans un futur proche sur un champ de bataille. Enfin, il est là vraiment en représentation du prince capable de mener des troupes. Et là, le tableau peint par Velázquez dans les années 1650, les Ménines, nous montre à l'inverse la jeune femme, Marguerite, dans un environnement domestique. Et ça pourrait, disons, être là deux façons de présenter la famille royale. D'une part, le jeune homme qui est appelé à régner dans un environnement qui est extérieur, puisqu'il doit parcourir le territoire et mener en quelque sorte aussi bataille. De l'autre côté, c'est cette jeune femme, future épouse, qui devra perpétuer aussi la dynastie avec des enfants et en s'assurant du maintien de la vie domestique du palais.
Et le peintre qui doit servir en peinture cette famille royale et qui, la servant, sert aussi sa cause, qui est celle de la souveraineté de l'artiste, tout ça faisant quand même un tableau monumental, Mathieu Pot-de-Bonneville, et qui ne parle que de modernité.
Oui, je suis frappé, en effet. Merci, Patrick, de m'avoir crédité d'un éclair de lucidité tout à l'heure. J'essaie de le prolonger. Je suis frappé dans notre conversation de la manière dont les interprétations philosophiques ou psychanalytiques de cette œuvre ont d'une certaine façon évidé
le tableau. Évider de son motif, évider de ses personnages pour n'en retenir que la réflexion sur la structure visible qui s'y déploie ou la réflexion sur les autorités qui s'y font jour dans cette espèce de querelle des investitures entre le peintre et le roi, qui t'a fait peintre, qui t'a fait roi. C'est d'ailleurs très beau, je voulais dire dans le livre de Jeremy Koering, cette façon de pacte qu'on voit se dessiner entre le roi qui a l'idée du tableau et le peintre qui l'exécute, c'est tout à fait beau. Mais à évider le tableau de son motif et de ses personnages, on manque quand même quelque chose qui est essentiel, y compris le saisissement qu'il va avoir chez quelqu'un comme Foucault, c'est que ces personnages sont saisis de manière arrêtée, sont saisis sur le vif. C'est-à-dire que ce qu'on voit apparaître, ce qu'ils apportent de plus... outre leur genre, c'est quand même le temps, la temporalisation. Si ce tableau n'est pas une image immobile, c'est une image arrêtée. Et c'est sans doute ce surgissement, ce léger tremblé de l'histoire et de la fiction, vous le disiez tout à l'heure, qui va aussi déclencher la machine à écrire, la même où les philosophes ne devraient pas l'oublier trop vite.
Arrêté un peu avant son achèvement, et c'est pour ça, vous avez une belle analyse aussi, Jeremy Koering, de l'imparfait. C'est-à-dire qu'il a signé cette toile à l'imparfait. Alors, Velázquez...
Il la signe peignait, pas vraiment.
En tout cas, il la donne effectivement à comprendre comme la peignant, l'ayant peigné.
L'impossibilité de parachever, ou du moins de considérer qu'il y aurait là quelque chose de parfait pour laisser place à une forme d'humilité, peut-être à l'endroit du roi à nouveau, mais aussi de l'histoire de la peinture, puisque cette signature à l'imparfait, elle fait écho à une très ancienne signature d'appel, un peintre antique fameux, et puis de quantité d'autres peintres de la Renaissance auxquels Velázquez vouait une certaine admiration, sans aucun doute, qui préférait cette signature à l'imparfait qu'au parfait. Fait et qui tout simplement se perçoit en regardant le tableau. C'est un tableau qui tremble, comme ça a été dit, avec cette touche si singulière qui donne le sentiment que certes, ces figures se sont arrêtées, elles prennent conscience de la présence du roi et de la reine et elles s'entreprennent de leur rendre hommage, mais elles sont aussi légèrement en mouvement.
C'est votre fiancé, monseigneur ? Compliments.
Mocheté. En plus, elle est mal élevée.
En tout cas, pour être présenté à la reine, j'aurais pu trouver quelqu'un de plus en vogue. Un homme qui rend sa toison...
Fougre. Et moi qui ai passé la nuit à transformer en fer de terre, en hidalgo. Oh. Mal élevé. Vous avez vu? Oui. Où il est passé? Où allez-vous?
La nuit passée, j'avais pas ma tête.
Je m'en fous rester.
Et puis, je me demande bien pourquoi vous faites tout ça pour moi, hein? Non, il vaut mieux que je m'en aille.
Je vous ordonne de rester.
Non, monseigneur, ça suffit. Faites des ronds de jambes, debout, assis, couché, saluez comme ci, parlez comme ça, faites partout la tête.
Chut.
Alors, monsieur le marquis, bien le bonjour.
Oh, vous, vous vous êtes.
Eh oui, monseigneur, moi aussi je m'en ai fait. Le roi, la reine. La sortie, c'est par là ou par là?
La sortie, c'est par là. C'était Allons-y voir. Merci à vous trois, Cécile Vincent-Cassis, Jeremy Koering et Mathieu Pot-Bonneville. Les références de vos livres, de vos parutions sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Anouk Minaudier, à la prise de son Anthony Thomasson et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous.